Radio Okapi.
Le journal, présenté par Noéla Luzitu Kabambi.
Des traitements inhumains dans les centres de formation et de détention du M23, c'est ce que dénoncent dans leur rapport les ONG Badilika et Amnesty International. Les deux organisations affirment que des éléments des FRDC, ceux de la PNC, des Wazalendo ainsi que des civils subissent des traitements dégradants dans le camp de Rumangabo notamment, situé dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Ces ONG exigent entre autres la libération de ces personnes détenues arbitrairement, disent-elles. Pas d'électricité depuis 5 jours déjà à Kalemie et ses environs. Une panne technique au niveau de la centrale hydroélectrique de Bendera en est la cause selon la SNEL. La Société nationale d'électricité a besoin de 8000 dollars américains pour réparer la panne et rétablir le courant électrique. Le général Évariste Kakule Somo, gouverneur du Nord Kivu, est notre invité. Il va revenir sur des avancées et des défis dans la traque des groupes armés locaux et étrangers dans l'est de la RDC. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Au Nord Kivu, plusieurs éléments des FRDC et de la police nationale congolaise, leurs alliés Wazalendo ainsi que plusieurs civils subissent des traitements inhumains dans les centres de formation et de détention du M23. C'est en l'occurrence dans le camp de Rumangabo, territoire de Rutshuru, révèle le rapport de l'ONG locale Badilika. Une dénonciation similaire est aussi faite par Amnesty International dans son rapport publié ce mardi 27 mai sur le site Relief Web. Ces organisations exigent entre autres la libération de ces personnes détenues arbitrairement selon elles. Grâce à Mzati.
Dans son rapport rendu public le 22 mai dernier, l'ONG Badilika, basée dans le territoire de Rutshuru, parle notamment des cas de châtiments corporels, parfois mortels, qui auraient été infligés à des centaines de personnes, civils et militaires qui tentent de s'échapper ou de résister à la détention par les rebelles du M23. Depuis plus de 100 jours, un nombre important de ces personnes seraient portées disparues, dit l'ONG Badilika qui en prend pour preuve des témoignages rassemblés sur ces exactions extrajudiciaires, notamment au sein même du centre de Rumangabo. Revenant sur des dénonciations similaires, Amnesty International, dans son rapport publié ce mardi 27 mai, accuse les mouvements du 23 mars M23 soutenus par le Rwanda des tueries, torture et disparition forcée de certains détenus. D'autres personnes, selon cette organisation internationale, sont prises en otage et soumises à des conditions inhumaines dans des lieux de détention à Goma et à Bukavu. Ces actes, selon Amnesty International, violent le droit international humanitaire et sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. Amnesty International, tout comme l'ONG Badilika, demande au M23 de libérer immédiatement les civils maintenus en détention arbitraire, y compris ceux qui sont victimes des disparitions forcées et dont le sort doit être révélé. Elle demande en plus au M23 de traiter les détenus civils ou militaires avec humanité, leur permettant de pouvoir consulter des avocats et de communiquer avec leurs familles.
Toujours au Nord Kivu, les affrontements opposant le M23 aux groupes armés locaux se sont poursuivis ce mardi matin dans le groupement de Tongo, territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources locales, les combats se sont intensifiés dans les villages de Marangara et Rukarara, causant d'autres victimes parmi les civils. Ces affrontements durent depuis plusieurs jours déjà dans cette zone occupée par le M23, mais où opèrent sporadiquement une dizaine de groupes armés. Dans le chapitre de l'éducation, notez l'arrivée le dimanche 25 mai au Nord Kivu des malles contenant les items de l'examen d'État et de l'ENAFEP, examen national de fin d'études primaires. C'est grâce à l'UNICEF qui a acheminé ces items et qui les a remis aux autorités provinciales dans les zones occupées. Mais pour une partie du territoire de Rutshuru, une semaine avant la tenue de cette session préliminaire de l'examen d'État, certains élèves se disent préoccupés par la situation sécuritaire instable. Ils déplorent déjà les conditions difficiles dans lesquelles ils préparent ces épreuves. Leurs parents plaident pour le renforcement de la sécurité pendant cette période, c'est notamment dans la chefferie de Bwito, avec des affrontements récurrents entre les rebelles et les Wazalendo, situation qui occasionne un déplacement massif de la population. Rappelons que ces épreuves hors session débuteront le 2 juin et iront jusqu'au 9 juin prochain, comme prévu sur le calendrier scolaire. Les carnets d'items de l'examen d'état sont disponibles aussi déjà à Bukavu. Confirmation de l'inspection provinciale de la province éducationnelle Sud Kivu 1 qui en a assuré l'expédition. La session va se dérouler dans un contexte particulier au Sud Kivu. Les activités scolaires sont suspendues dans certaines écoles à cause de l'insécurité, sans oublier la grève des enseignants non payés depuis l'occupation d'une majeure partie de la province par l'AFC 123. Ronéline Tibonera.
L'acheminement des carnets d'items de preuves hors session des examens d'état à Bukavu rassure les finalistes de la province éducationnelle Sud Kivu 1. Ces derniers sont restés longtemps dubitatifs quant à la passation de ces preuves d'état à cause de la rupture administrative entre Kinshasa et une grande partie de la province du Sud Kivu. Le directeur provincial de l'enseignement au Sud Kivu affirme que le transport de mal a été rendu possible grâce à leur partenaire UNICEF et l'ONG World Vision. L'UNICEF a assuré les transports de Kinshasa via Beni Goma jusqu'à Bukavu, alors que World Vision en acheminera vers les centres de passation dans les territoires d'Ijui, Kalehe et Bourale à Walungu. Dans l'entretemps, quelques écoles ont fermé leurs portes à cause de la grève des enseignants. Dans le territoire de Mwenga, par exemple, les enseignants réclament le paiement des arriérés des 4 mois de salaire.
Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations. Thème central de la 62e journée de l'Union africaine célébrée le dimanche 25 mai. À cette occasion, le président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, le cardinal Fridolin Ambongo, adresse un message de paix, de justice et d'amour aux dirigeants africains et aux populations africaines. Se ralliant à la commission de l'Union africaine, il attire l'attention sur l'urgence du besoin de justice pour l'ensemble des peuples africains du continent, de ses îles et de la diaspora. D'autres détails avec vous. Jeff Ngoy.
Le cardinal réitère sa préoccupation face aux défis urgents auxquels le continent africain et ses populations sont confrontés, notamment l'injustice, le terrorisme, les conflits, la pauvreté, les questions d'éducation, des soins de santé, des dialogues interreligieux, d'écologie, des réfugiés et des personnes déplacées, de traite des êtres humains, pour ne citer que ces mots. Selon la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les conflits contemporains et les situations de crise en Afrique ont forcé des milliers de personnes à fuir pour échapper à la souffrance, aux violations des droits de l'homme et à la famine. Et malheureusement, les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, subissent les violations des droits de l'homme les plus flagrantes dans les conflits. En tant qu'Église, famille de Dieu en Afrique, souligne le président de ce symposium, qui se déclare convaincu que les dirigeants africains accorderont une grande attention aux appels et aux exhortations pastorales du pape Léon XIV qui, suivant les traces de son prédécesseur le pape François, renforce l'engagement de l'Église en faveur de la justice, de la paix et de la dignité de tous les peuples, en particulier les pauvres, les marginalisés et ceux qui souffrent des conséquences des conflits, de l'inégalité et de la négligence.
Emmanuel Elameji Wakabedi sur Radio Okapi. Cinquième jour ce mardi, depuis que la ville de Kalemie et ses environs sont plongés dans le noir. La SNEL annonce qu'une panne technique est survenue au niveau de la centrale hydroélectrique de Bendera. Dans une correspondance adressée au gouverneur du Tanganyika, le chef de division de la SNEL chargé de la production et de transport à Bendera indique que le coût des travaux pour la réparation de la panne est évalué à plus de 8 000 $ américains. Un reportage de Paula Munanga rendu par Étienne Lissumbu.
Le chef de division de la SNEL chargé de la production et des transports à la centrale de Bendera souligne que les travaux pour réparer la panne consistent à procéder à l'avidage du lac des retenues, du barrage de Kiimbi et de débouchage des conduites d'eau. Selon lui, cela nécessite une forte main d'œuvre. Pour sa part, le directeur commercial de la SNEL, Kalemi, rassure la population que les travaux sont en cours pour réparer la panne. Pendant ce temps, cette coupure au courant affecte plusieurs secteurs de la vie de la population. Les activités tournent au ralenti dans la ville de Kalemi, faute de l'énergie électrique. Face à cette situation, l'élu provincial de Kalemi, Dox Dona, a disponibilisé des générateurs pour aider la population à charger leur téléphone mobile gratuitement.
L'initiative était d'aider la population qui est en difficulté pour pouvoir charger leur téléphone. C'est comme ça que nous avons pris l'initiative de mettre les générateurs dans les coins chauds pour permettre à ce que les gens puissent charger leur téléphone sans problème.
Signalons que proche du gouverneur du Tanganyika affirme que l'autorité provinciale a déjà débloqué l'argent dont la SNEL avait besoin pour le déroulement des travaux à la centrale de Bendera.
Les travaux de construction et de réhabilitation de l'avenue Gambela à Kinshasa sont en cours. Cette avenue traverse la commune de Bumbu et une partie de celle de Ngiringiri. Au total, 2,7 km de route sont concernés. L'ouvrage est exécuté par l'entreprise 2K Service, la surveillance de l'hôtel de ville et la supervision du bureau central de contrôle. Du côté des habitants, c'est la joie, malgré la tristesse des vendeurs de Moussielou, un marché pirate démoli il y a une semaine pour laisser la place à la route. Où en est-on avec ces travaux, Babel Mpongo Masimango?
Ces travaux se déroulent en deux phases. La réhabilitation pour la partie déjà asphaltée entre les avenues Kasavubu et Ngiringiri, mais qui compte aujourd'hui de nombreux nids de poules, et la construction de Ngiringiri à Landou, dans la commune de Bumbu. Pour les canalisations, nous en sommes à 1 km 610 déjà, nous dit l'ingénieur Audrey Kabuku de BTC. Pour la route, nous avons déjà placé des pierres concassées sur au moins 1 km 300. La route sera bétonnée avec une épaisseur de 15 cm. Les travaux débutés début mars sont prévus pour 6 mois, sauf imprévu. Parmi les difficultés, justement, ils citent la pluie, la présence du marché Moussielou qui a été finalement détruit et aussi la mesure interdisant la circulation de grands véhicules le jour. Ceci nous met en retard, affirme l'ingénieur qui plaide pour une mesure d'exception pour les véhicules œuvrant dans les chantiers publics. C'est avec joie et espoir que les habitants attendent cette route. Toutefois, les vendeurs de l'ancien marché Moussielou continuent d'étaler leurs marchandises par-ci par-là sur des tables ou des sacs. Bien que contents de voir ces travaux, ils se plaignent du manque de plan B pour eux. Après ce tronçon, il s'agira pour les entreprises à l'œuvre ici de relier aussi les avenues Gambela et Chaba via Alandou.
À Lubumbashi, la morgue de l'hôpital général de référence Jason Sendwe dégage des odeurs de putréfaction. D'après l'administrateur général de la ville chargé des inhumations, il y a 64 corps dans la morgue depuis plusieurs mois. Certains sont en décomposition. Il précise que la mairie s'organise pour l'inhumation de ce corps. Mais pour le directeur général de l'hôpital Sendwe, il est temps que la mairie remette la gestion de cette morgue à son hôpital pour un bon suivi. Paul Amunanga.
L'administrateur général de la ville chargé des inhumations à Lubumbashi indique que parmi ces corps, il y a ceux qui sont abandonnés par des proches, d'autres sont ramassés à travers la ville et ne sont pas identifiés. Il y a aussi des corps dont l'affaire est pendant devant la justice et il faut attendre le dénouement pour l'enterrement. Cyril Moulaja dit avoir pris langue avec le parquet près le tribunal de grande instance de Lubumbashi pour l'obtention de l'autorisation d'inhumation de ces corps. Le maire de Lubumbashi a même lancé un communiqué demandant à toute personne de se rendre à la morgue pour identifier les corps et procéder à l'enterrement. Dans les cas contraires, la mairie va se charger pour inhumer tous les corps. Le directeur général de l'hôpital Sendwe souhaite que la gestion de la morgue revienne à sa structure hospitalière. Docteur Foreman Mabala.
La morgue fait partie des institutions ou des structures ou des services intra-hospitaliers qui va de la maternité vers la morgue. Nous avons parlé avec le président de l'Assemblée provinciale qui nous a très bien écouté et les différents députés, nous sommes dans ces lobbying pour récupérer cette morgue afin de voir comment est-ce que nous pouvons aussi la rendre un plus commode.
Signalons que c'est depuis l'époque du maire Floribert Kaseba Makunko que la mairie de Lubumbashi a récupéré la gestion de la morgue de l'hôpital Sendwe. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
La zone de santé de Kikongo dans le territoire de Bagata peine à bien assurer la prise en charge médicale des accouchés et des déplacés de Kwamout. À la base, cette zone de santé de la province du Kwilu manque de médicaments et d'autres matériels dont des lits d'accouchement. Le médecin chef de zone qui le dit fait savoir que sa zone de santé n'est pas appuyée par le gouvernement, ce qui fait que même la gratuité de la maternité n'y est pas effective. Docteur Didier Menanga plaide pour un appui du gouvernement afin de protéger les vies des mères, des bébés ainsi que celles des déplacés de Kwamout. Le point avec Irène Mbomaluzolo.
Si dans d'autres coins de la province du Kwilu, la gratuité de la maternité prônée par les chefs de l'État dans le cadre de la couverture santé universelle est une réalité, la situation n'est pas la même dans la zone de santé de Kikongo. Ici, les établissements de soins font face à un manque criant des intrants médicaux et de certains matériels, les empêchant de prendre correctement en charge les femmes ayant accouché ainsi que leurs nouveau-nés. Docteur Didier Menanga est le médecin chef des zones de Kikongo.
Nous avons des problèmes de médicaments dans nos hôpitaux, ce qui fait que la gratuité des accouchements n'est pas au rendez-vous à Kikongo. La gratuité veut dire que l'État doit compenser. Mais il y a des zones de santé orphelines, pas de médicaments, pas de lits pour les accouchements même.
Cette zone de santé héberge aussi des milliers de déplacés qui ont fui les atrocités de la milice Mobondo à Kwamund. Cependant, leur prise en charge médicale pose aussi problème faute de médicaments. Le docteur Didier Menanga qui le dit tire la sonnette d'alarme.
Donc nous attendons vraiment une prise en charge holistique des déplacés et aussi un appui pour la zone de santé de Kikongo.
Précisons que la zone de santé de Kikongo se situe dans le secteur de Wamba Fatundu, en territoire de Bagata, dans la province du Kwilu. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
En plus bref, la lutte contre les inondations ainsi que la gestion des déchets, deux domaines dans lesquels la Banque mondiale vient appuyer la ville de Kinshasa. Un projet de plus de 200 millions de dollars a été approuvé pour cela par la Banque mondiale. Les deux parties ont eu une rencontre hier à Kinshasa. Ils ont discuté notamment sur ce qui peut être fait pour améliorer la gestion de ces problèmes qui impactent négativement la capitale congolaise.
Actualité internationale.
La Banque africaine de développement BAD a démarré ses assemblées annuelles ce mardi à Abidjan, Côte d'Ivoire, où se trouve son siège. Il y aura notamment l'élection d'un nouveau président le jeudi pour succéder au Nigérien Akinwumi Adesina au moment où l'institution fait face au désengagement financier des États-Unis. La BAD, fondée en 1964, compte 80 pays membres, dont 54 pays africains.
L'invité.
Le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule Somo, est notre invité. Il revient sur des avancées et des défis dans la traque des groupes armés locaux et étrangers dans l'est de la RDC. Il l'a dit à l'occasion hier du lancement à Bunia de la deuxième phase du programme Ensemble pour la paix et la gouvernance sécurité dans les provinces de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Il revient notamment sur les mécanismes mis en place avec son homologue de l'Ituri pour stabiliser les deux provinces sous état de siège. Le général Kakule Somo s'entretient avec Ezekiel Mouzalia.
Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, Évariste Somo, bonjour. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Bunia, où vous venez de prendre part à ces séminaires sur la gouvernance sécuritaire?
La province du Nord Kivu est une province très sinistrée. Vous connaissez l'état des guerres que nous avons partout, mais particulièrement au Nord Kivu et bien sûr aussi le Sud Kivu, dont même une partie contrôlée par les ennemis de la République. Donc le programme sur la gouvernance sécuritaire qui a fait que nous venions ici sur invitation de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province de l'Ituri pour prendre part à ces assises, nous a permis de raffermir encore nos échanges, nos expériences, notamment l'expérience du Nord Kivu, où non seulement nous faisons face à une guerre totale, mais aussi groupes armés et autres. Ces échanges-là vont donc nous conduire à mieux stabiliser notre situation et renforcer la participation de notre population à la gestion de sa propre sécurité.
Quel est l'impact des démarches diplomatiques des hauts niveaux qui sont en train d'être menées pour l'amélioration de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu?
Actuellement, nous sommes en train de cheminer vers la paix. Nous sommes informés tous des démarches qui sont menées à haut lieu pour que la guerre s'arrête. Nous espérons que ces efforts-là vont être capitalisés et aller vraiment vers la fin de la guerre. Le Nord Kivu particulièrement a besoin de cette situation-là pour que nous nous lancions dans les efforts de reconstruction comme ce que nous venons de constater ici, par exemple, à Ituri, où la transformation est tout simplement palpable. Sans la paix, tout cela ne peut pas arriver et donc c'est ça mon souci.
La situation sécuritaire reste encore volatile, entre autres sur la route Boga, Chabi, Komanda, Luna jusqu'à Beni. Et cela impacte vraiment le trafic sur la route. Avec votre homologue de l'Ituri, quel mécanisme mettez-vous en place pour rétablir la sécurité des usagers sur ces différents axes routiers?
La province de l'Ituri et la province du Nord Kivu sont les deux provinces sous état de siège. Donc, au-delà de la solidarité entre provinces, nous avons une collaboration tout à fait particulière qui fait que nous sommes en train de réfléchir ensemble et même de concentrer des efforts que je ne veux pas étaler ici tout de suite pour que cette route-là puisse aussi reprendre les activités. Je crois que les travaux sont déjà en cours et nous travaillons d'une façon mutualisée même avec nos partenaires pour que la sécurité revienne totalement. Les deux routes, donc Boga et Commanda Luna sont des axes importants que nous devons absolument ouvrir et sécuriser.
Les deux provinces bénéficient de l'appui de l'armée ougandaise dans le cadre de la mutualisation des forces. Quelles sont les avancées observées, surtout sur le plan sécuritaire, mais aussi les défis qui restent encore à relever pour une paix durable dans cette partie de la RDC?
Les opérations militaire entre le secteur opérationnel de l'Ituri et le secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord sont mutualisés au niveau des FRDC d'abord, mais aussi ensemble avec nos partenaires de l'UPDF. Nous pouvons vous rassurer que les choses sont en train de changer et très très bientôt, les gens vont circuler sur cette route tranquillement. Les opérations ont été relancées il y a très peu et les résultats, nous allons vous les annoncer dans quelques jours. Les groupes armés que nous avons ici, heureusement, sont des Congolais. Les Congolais qui continuent à prendre les armes pour tuer leurs compatriotes à ce jour, ce serait vraiment très triste de voir qu'on continue avec cette mentalité. C'est pour cela que je les appellerai tous à saisir la voie de la raison, qui viennent déposer leurs armes, qui viennent sur la table de discussion, que nous nous parlions entre nous, Congolais, que les armes se taisent et le développement que je viens de constater ici à Bunia peut s'étendre partout en Ituri et c'est pour le bien de tout le monde.
Évariste Kakule Somo, je rappelle, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous aussi, chers auditeurs, qui avez bien voulu suivre ce journal qui arrive à sa fin. Un journal mis en onde par Alain Goy, présentation Noëlla Luzitu Kabambi, coordination Richard Junior Kamunga, le tout sous la supervision de Jude Mister Bilanda.